Bonjour et bienvenue dans Meilleur Allié, le podcast qui vous aide à cultiver votre relation avec vous-même. Je m'appelle Marie Legac, je suis coach professionnelle certifiée et vous écoutez l'épisode 12, 6 manières de ne pas se plomber soi-même quand on porte un projet. J'ai choisi de vous parler de ce sujet car c'est un très bon exemple de l'influence de notre état d'esprit et de notre relation avec nous-mêmes sur nos vies professionnelles. C'est un sujet qui revient très régulièrement avec les personnes que j'accompagne en coaching individuel et j'ai identifié 6 apprentissages qui pourront sûrement vous aider vous aussi. Quand je parle de projet, c'est au sens large, donc vous n'avez pas besoin d'avoir un statut officiel de porteur ou porteuse de projet pour vous sentir concerné par l'épisode d'aujourd'hui. Simplement, l'idée c'est que vous ayez un projet dont vous vous sentez responsable. Ça peut être une initiative que vous avez proposée à votre entreprise, une activité entrepreneuriale, un projet artistique, un projet associatif, une prise de poste, une formation, un défi sportif, un side project, un projet de reconversion ou de départ à la retraite. Bref, un projet dont vous êtes acteur ou actrice principale et qui va dépendre tout ou partie de vous. Cet épisode est particulièrement pour vous si vous connaissez bien le mode de fonctionnement que j'appelle deux salles, deux ambiances. Selon les jours, vous êtes soit dans la première salle, avec la musique entraînante, vous avez envie de danser, vous êtes super emballé par votre nouveau projet, vous vous dites que c'est une super opportunité, que ça vous correspond, vous avez plein d'idées et vous êtes fier de vos avancées. Et puis le lendemain, ou parfois même en quelques heures, vous vous retrouvez dans l'autre salle, celle où la musique est beaucoup plus déprimante, où vous avez envie de vous asseoir dans un coin pour simplement ruminer en tête à tête avec votre stress, vos peurs, votre procrastination, en remettant en question tout votre projet et surtout en vous remettant en question vous-même. À quoi ça ressemble ces deux salles, deux ambiances dans la vraie vie ? C'est par exemple si vous avez accepté un nouveau poste qui vous correspond, vous trouvez excitant et qui vous emballe, mais que parfois vous vous retrouvez à vous sentir vraiment très stressé de tout ce qui pourrait mal se passer, que vous envisagez tout un tas de problèmes et que cette nouvelle opportunité qui s'ouvre à vous, finalement parfois vous avez simplement envie de reculer et de prendre la fuite. Ça peut aussi ressembler à une décision que vous avez prise, comme lancer une page LinkedIn, Instagram ou TikTok, je ne sais quoi, pour parler des sujets qui vous plaisent. Et vous passez un jour où vous êtes super emballé avec plein d'idées, envie de partager, vous avez envie d'exprimer vos centres d'intérêt au monde entier. Et puis la semaine suivante, vous n'avez plus du tout envie d'y consacrer de temps, vous trouvez ça plombant. Voilà, vous vous demandez finalement pourquoi vous vous êtes lancé au départ et à quoi ça sert de faire tout ça. Donc cet épisode est pour vous si vous vous retrouvez régulièrement dans la salle morose avec la musique déprimante. Et à la fin de l'épisode, vous aurez donc 6 portes pour vous redonner accès à la salle de l'enthousiasme, qui est quand même bien plus agréable, il faut bien qu'on se le dise. De manière générale, quand on perd l'élan pour son projet, c'est parce que l'on pense que l'on voit enfin les choses en face et que ces choses ne sont pas aussi roses que l'on pensait. En fait, on se sent désenchanté comme un lendemain de soirée arrosée et notre discours intérieur ressemble à ça. Finalement, ce projet n'était pas si génial. En théorie, c'est super, mais en réalité, je manque de temps et puis mes choix passés ne sont pas si bons. Et de toute manière, les compétences que je pensais avoir ne sont pas au rendez-vous. Je crois que je suis pas la bonne personne pour ça et puis finalement, je suis pas assez aidée, et puis je suis pas assez ceci, pas assez cela. Et donc c'est un discours comme ça qui est assez décourageant et démotivant, comme si la dure réalité des choses et de la vie nous avait rattrapés. On se retrouve alors à envisager de laisser tomber son projet, alors que l'on sait au fond que l'on ne s'est pas vraiment donné toutes les chances pour que ça marche. Et en fait c'est là que c'est dommage, parce que ça ressemble à du gâchis, tout simplement. Alors la bonne nouvelle, c'est que j'ai remarqué que la plupart du temps, ce n'est pas la dure réalité qui est en cause, parce qu'en fait, on se trompe de problème. Le problème, c'est tout ce qu'on va se raconter soi-même sur ce nouveau projet qui va rendre les choses contre-productives. Et donc, ça, c'est même une excellente nouvelle, car ça veut dire qu'on peut agir dessus. Alors, pour que ce soit bien concret, je vais m'appuyer sur deux situations vécues par des personnes que j'ai accompagnées récemment en coaching et dont je vais changer les noms, et un exemple que j'ai vécu personnellement. C'est parti. Le premier exemple, c'est une jeune femme que je vais appeler Marion, qui rêve depuis des années d'écrire un roman. Elle m'a contactée car elle avait du mal à se lancer dans ce projet personnel, car elle a un travail qui est très prenant et dans lequel elle s'investit beaucoup. Elle se sentait très frustrée de ne pas pouvoir se consacrer à son projet de livre par manque de temps, et elle se demandait en fait si elle allait un jour réussir à s'y mettre. Elle voulait qu'on travaille ensemble pour réussir à dégager du temps pour ce projet personnel qui l'a fait vibrer. Il se trouve que pendant l'échange, on a mis au jour que l'enjeu pour elle de ce roman, c'était de réussir à écrire une grande histoire avec un style littéraire qui soit remarquable, qui la fasse en quelque sorte entrer dans le club des grands auteurs reconnus qu'elle admire et dont elle a lu les œuvres à de multiples reprises. Et donc, pour pouvoir écrire une œuvre remarquable, grandiose et à la hauteur des plus grands, nécessairement, il fallait qu'elle puisse y consacrer du temps. D'où le problème, car son travail ne lui laissait pas le temps nécessaire pour ce projet d'envergure. Et elle s'est progressivement aperçue que regarder son projet de roman de cette manière, avec une telle ambition, c'était quelque chose qui lui créait finalement beaucoup de pression. Et que le temps qu'elle pouvait accorder paraîtrait toujours insuffisant en focalisant son attention sur une barre aussi haute. C'est donc la pression de vouloir être à la hauteur qui alimentait sa frustration de manque de temps. On a donc travaillé sur une autre manière de considérer son projet pour qu'elle se sente moins frustrée et moins sous pression et qu'elle puisse réellement se mettre dans l'action. Donc quel enjeu pourrait être plus motivant et constructif ? C'était là tout l'enjeu pour elle. Et elle a finalement formulé que ce projet de roman, au départ, c'était surtout une manière pour elle de pouvoir exprimer sa créativité, de se mettre dans la peau d'une autrice et de commencer à donner vie à un certain nombre d'idées qu'elle avait en tête. Puis en tête depuis longtemps. Et en voyant son projet de roman, non plus comme un idéal littéraire à atteindre, mais plutôt comme une possibilité pour elle de pratiquer sa créativité, ça a complètement fait redescendre la pression de l'enjeu. C'est ça qui lui a permis de reprendre son stylo et d'écrire la trame de son histoire. Et peut-être que son roman atteindra le statut de chef-d'œuvre littéraire, c'est tout ce qu'on lui souhaite, mais au moins elle a pu enclencher les premiers chapitres, les premières pages. Et c'était ça qui était déterminant à ce moment-là. Mais entre une œuvre littéraire qui ne voit jamais le jour, même pas une page, et une œuvre littéraire qui, parce qu'on s'y attelle, devient qualitative et a le mérite d'être un vecteur de créativité, la différence, c'est que dans un cas, on est dans un fantasme de perfection qui empêche de passer à l'action et nous fait ruminer, et dans l'autre, il y a une œuvre en cours d'écriture qui donne la satisfaction d'être en mouvement et de construire progressivement. Et donc, vous l'aurez compris, la salle un peu morose, c'est la salle où on est dans un fantasme de perfection qui est paralysant. Et l'autre salle, beaucoup plus entraînante, c'est celle où on a la satisfaction d'être déjà en mouvement, déjà dans le processus. Il y a donc deux pistes pour vous à retenir de ce premier exemple. La première, c'est que si vous ressentez de la pression vis-à-vis de votre projet, la question que vous pouvez vous poser, c'est de quelle manière est-ce que je peux faire baisser l'importance de l'enjeu ? Comment est-ce que je peux faire baisser le niveau de perfection et de grandiosité que je m'imagine pour que ça arrête de me paralyser ? Et qu'est-ce que je serais déjà super satisfait ou satisfaite de réussir à faire ? Je vous donne une deuxième piste de changement de perspective qui peut être très utile. C'est comment est-ce que vous pourriez déplacer l'enjeu pour qu'il concerne le processus et pas le résultat. Parce que c'est vraiment très différent de se dire « mon objectif, c'est réussir à produire une œuvre littéraire remarquable » ou « mon objectif, c'est de commencer à écrire et de progressivement développer un roman qui traduit mes idées. » Donc la question que vous pouvez vous poser, c'est « qu'est-ce que vous avez envie d'apprendre à faire sur le chemin vers le résultat ?» Ça rendra pour vous les choses beaucoup moins binaires, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas seulement une possibilité de succès à savoir un prix Goncourt ou un échec, à savoir ne pas recevoir le prix Goncourt. Non, il y aura aussi tout ce que vous aurez appris en chemin, réussi à faire et tout ce que vous aurez construit comme bagage au fur et à mesure. Je passe maintenant au deuxième exemple, qui cette fois-ci est l'exemple d'un homme que je vais appeler Julien, qui était en train de suivre une formation commerciale qui allait lui donner accès à un nouveau poste de responsable commercial. Il m'a contacté parce qu'il bloquait sur son dossier de fin de formation qu'il n'arrivait pas à terminer. Il voulait que l'on travaille ensemble sur sa motivation et son organisation parce qu'il se trouvait beaucoup trop dispersé pour réussir à finir son dossier dans les temps. Au fil de notre échange, il s'est rendu compte que le poste de responsable commercial qui l'attendait après la formation lui faisait plutôt peur et qu'il ressentait de la réticence à cette idée. Et donc la vision qu'il avait de son avenir après la formation ne lui donnait plus du tout envie et il n'avait pas envie d'endosser un rôle qui ne lui ressemblerait pas et de se résigner à entrer dans une forme de moule. Donc son enjeu de départ, celui qui l'avait poussé à s'inscrire à la formation, était devenu quelque chose pour lui de repoussant. Voilà, c'était vraiment un répulsif. Et donc ne pas terminer son dossier, c'était une manière pour lui de parler dans cette direction. Pour faire simple, sa procrastination était une stratégie d'évitement. Le fait qu'il n'arrive pas à terminer son dossier n'avait pas grand-chose à voir avec sa manière d'organiser son travail. C'était une déconnexion entre lui et son objectif initial. On a donc questionné à quel point la vision qu'il avait de son avenir était vraie. Est-ce que nécessairement réussir sa formation et accéder à un nouveau poste voulait dire qu'il allait endosser forcément un costume aseptisé qui allait le faire ressembler à tout le monde et dans lequel il allait complètement se perdre? Et la réponse à cette question n'était finalement pas si fatale. Le vrai sujet, c'était davantage comment est-ce que je peux devenir un responsable commercial avec toutes les couleurs de ma personnalité et incarner une vision de la vente et du management qui me ressemble. Et se poser cette question comme ça, c'est quelque chose qui lui a permis d'ouvrir les perspectives et de se poser la question de quelle autre option est possible pour moi plutôt que celle vers laquelle je n'ai pas envie d'aller. Donc le dossier de formation est devenu finalement un moyen au service du responsable commercial qu'il a envie d'être, envie de devenir. Et ce n'était plus un aller direct vers un rôle repoussant pour lui sur le banc des commerciaux qui se ressemblent tous et qui sont des marchands de tapis, si je schématise un petit peu. Ce qui m'amène à deux nouvelles pistes pour vous à retenir, c'est qu'un problème d'organisation ou de procrastination, donc ce pourquoi on est parfois en train de se flageller, ça cache souvent un problème plus haut, ou en tout cas un problème derrière, de motivation et de vision. Ce n'est pas que l'on est mauvais pour faire ce que l'on a à faire, c'est surtout que l'on est déconnecté d'une bonne raison de les faire. Et une clé, ça va être de regarder toutes les pensées que l'on a au sujet de son objectif. Si ces pensées créent un ressenti désagréable, une envie d'évitement, c'est une invitation à regarder les choses autrement. Ce que je peux vous recommander, c'est de pratiquer avec le modèle CPAER dont je vous ai parlé dans l'épisode 5, qui est un outil fondamental et qui va vous permettre de prendre conscience de vos pensées, de vos émotions et surtout de choisir de développer d'autres pensées plus utiles. Donc pour être votre meilleur allié, à ce moment-là, la question à vous poser, c'est au fond, quelle est ma vraie bonne raison de me lancer ou de persévérer dans ce projet ? Comment est-ce que je peux trouver cette raison qui me motive moi, car elle va me rapprocher de ce que je veux vraiment pour moi au fond ? Et j'insiste sur le « moi » parce que l'idée, ce n'est pas de vous conformer à quelque chose que la société attend de vous ou votre famille ou votre entreprise. C'est vraiment de trouver fondamentalement pour vous la raison qui vous anime quand vous vous proposez de faire ce que vous vous proposez de faire. Et la dernière piste sur ce point-là, c'est de bien penser à vérifier de temps en temps que vous êtes toujours bien connecté à votre raison de faire les choses. Parce qu'avec le temps, on peut oublier ou perdre de vue ce qu'on avait vraiment envie de faire et notre objectif devient un objectif qui ne nous appartient plus vraiment. Ce que l'on peut faire dans ces cas-là, c'est peut-être tous les 3 mois, tous les 6 mois, vérifier que le projet dans lequel on s'est lancé nous permet toujours d'atteindre un objectif plus grand qui va dans la bonne direction pour soi. Je vais maintenant passer au troisième exemple, qui est cette fois-ci un exemple personnel, avec un cas très concret, qui est le tout début de ce podcast. Au début, j'étais très enthousiaste de créer ce podcast et j'ai passé beaucoup de temps dans la première salle avec la bonne ambiance. Je me disais que c'était une super occasion de faire quelque chose de nouveau sur un sujet qui me passionne et de pouvoir partager largement avec d'autres personnes que je ne connais pas. Donc j'avais listé plein de sujets dont j'avais envie de parler, j'avais appris les aspects techniques, j'avais écrit une introduction, enregistré un épisode que j'avais publié, et puis l'élan est parti. Je me suis retrouvée à ne plus trop vouloir passer de temps dessus sur mes week-ends ou en soirée. Je passais des heures à essayer d'écrire, à faire des recherches, à me replonger dans des livres pour vérifier que je ne dirais pas de bêtises. Et je comparais mes épisodes à ceux d'autres podcasts qui existent depuis plus longtemps que le mien. Et en fait, ça m'a créé vraiment une sensation désagréable, comme si j'avais perdu la flamme. Et j'avoue que j'étais un peu déçue de moi, de mon manque de persévérance, et je ne comprenais pas trop ce qui avait changé. Donc évidemment, j'ai utilisé mes propres outils de développement personnel dont je vous ai déjà parlé. Et puis surtout, j'ai profité de servir de cobaye pour une autre coach en formation pour travailler sur ce sujet. Et elle m'a demandé de penser à mon podcast en y associant une image. Et l'image qui m'est apparue tout de suite, c'était un gros boulet en fonte bien lourd, comme ceux que les prisonniers se traînent aux pieds dans les films. Et en fait, je le ressentais même dans mon corps comme un poids sur mes épaules. Et ça m'a frappée, parce que je n'avais pas du tout réalisé que ce projet créatif était devenu pour moi aussi lourd. Et en fait, c'est exactement ça qui m'a permis de comprendre pourquoi c'était devenu si lourd pour moi. J'étais devenue convaincue que pour mon podcast soit un bon podcast, il fallait rapidement que j'arrive à créer 50, 100, 150 épisodes, à publier à une fréquence précise, à recevoir plein d'avis, à faire un plan de communication, à me faire connaître, blablabla. Et en fait, c'était beaucoup trop lourd pour moi à ce moment-là, et surtout complètement éloigné de ce que je voulais vivre et ressentir en faisant ce podcast. J'ai réfléchi à l'image que j'avais envie d'associer à mon podcast à la place du gros boulet. Et ce qui m'est venu, c'est une bulle. Une bulle de savon colorée, brillante, légère. Une bulle de créativité, d'expression, de partage sincère. Et depuis, c'est sur ça que je me concentre. C'est ça mon but premier. Vous partager des choses en pouvant m'exprimer avec créativité et en partageant des choses vraiment pour moi qui sont importantes et de manière authentique. Et surtout, qu'est-ce que je pourrais raconter qui pourrait aider ne serait-ce qu'une personne qui m'écoute dans son propre cheminement ? Alors évidemment, j'ai envie de toucher de plus en plus de personnes, de proposer de la qualité et de transformer tous les sujets de ma liste en centaines d'épisodes. Mais c'est pas mon objectif en premier. Donc mon boulet est finalement redevenu une bulle de créativité et l'enthousiasme et l'inspiration sont de retour. Donc à chaque fois que je me retrouve derrière ce micro à vous enregistrer un épisode, je sais que je suis dans la bonne salle, celle où j'ai l'impression que les choses bougent et que je danse sur une musique entraînante. Ce qu'il y a à retenir ici, c'est que quand vous constatez que quelque chose cloche avec un projet ou une action, c'est utile d'aller voir comment vous vous sentez au niveau de vos ressentis corporels et de vos émotions, pour ne pas rester uniquement dans ce que vous pensez dans votre tête. Et l'épisode 4 du podcast sur l'accueil des émotions va vous y aider si vous ne le connaissez pas encore. L'autre chose à retenir, c'est que les images sont très parlantes et marquent notre cerveau plus rapidement que les mots. Alors, vous pouvez vous entraîner à détecter les images qui vous repoussent et celles qui vous motivent et vous appuyer dessus pour prendre des décisions ou en tout cas vous mettre dans les bonnes conditions. Je vous donne quelques images qui sont apparues ces dernières semaines dans les séances de coaching des personnes que j'accompagne. Je les trouve assez parlantes, donc je vous les partage. Par exemple, une image de soleil qui va remplacer une image de brouillard. Le chemin versus la montagne. Le marathon versus le sprint. Le tremplin versus l'impasse. L'aventure versus le combat. La quête versus le sens interdit. L'alliance versus le combat. Et je trouve ça très parlant parce que quand on arrive dans une séance en se sentant complètement dans le brouillard et qu'on repart en ayant cette sensation de luminosité et de soleil, c'est qu'il y a quelque chose dans l'état d'esprit qui a basculé. Donc en conclusion, je vais quand même prendre un instant pour résumer les pistes que je vous ai présentées et qui seront à votre disposition la prochaine fois que vous aurez un coup de mou ou un coup de pression. La première dont je vous ai parlé, c'est faire descendre de quelques niveaux le degré de perfection que vous voulez atteindre avec votre projet. La deuxième, c'est de placer l'enjeu de votre projet sur ce que vous attendez du processus plutôt que sur le résultat final. La troisième, c'est de vérifier que votre projet s'appuie sur une vision motivante de votre objectif et de vous aider pour ça du modèle CPEAR pour choisir des pensées utiles. Quatre, c'est de vérifier de temps en temps que ce que vous mettez derrière votre projet continue de vous motiver pour éviter que votre vision de l'avenir ne glisse vers quelque chose de répulsif ou simplement ne soit plus à jour avec ce que vous voulez vraiment. 5, c'est d'explorer vos émotions et vos ressentis et d'y prêter réellement attention pour ne pas rester uniquement dans votre tête. La sixième piste, c'est que si vous avez du mal à mettre des mots sur ce qui vous coince dans votre enjeu et ce qu'il vous inspire, essayez d'y associer une image. Et si cette image vous plaît, c'est tant mieux, c'est que vous êtes a priori dans une bonne direction et dans une bonne dynamique. Sinon, c'est qu'il y a quelque chose à revoir en utilisant les points précédents. Voilà, j'espère que ça vous aura été utile et surtout parlant. Si vous ressentez le besoin d'être accompagné dans vos questionnements professionnels et votre mise en action, avec méthode, bienveillance et profondeur, je vous propose de prendre rendez-vous avec moi pour en parler. Et j'ai mis en place des rendez-vous découvertes pour qu'on puisse faire connaissance. Donc voilà, n'hésitez pas à m'envoyer un message ou à me contacter via mon site internet www.meilleuralliés.com. Si cet épisode a été utile pour vous, je vous invite à le partager autour de vous, à laisser un avis sur le podcast ou à m'envoyer un message. C'est toujours un très 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 grand plaisir de vous lire. C'est motivant aussi pour moi et ça pourra peut-être aider une autre personne autour de vous dans votre entourage. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et je vous retrouve lors d'un prochain épisode de Meilleur Allié. À bientôt !